On en jase sur les ondes de Boulevard 101 qui tire déjà à sa fin. Il est 13h42 minutes. Pascal, t'as attiré mon attention tantôt quand t'as dit Jacques Gourde, parce que Jacques Gourde, le député, là, c'est lui qui fait toujours un scandale.
Oui, c'est le coloré Jacques Gourde,
c'est ça, hein?
Qui attire l'attention à sa manière dans des périodes de questions et des choses comme ça. Mais c'est un gars quand même qui est très apprécié. Hein. Là où il fait de la politique, ben, c'est du côté de la Rive-Sud. Puis là, il y a une grande majorité des gens qui l'apprécient. Jacques Gourde, ce qui est intéressant aussi avec lui, c'est qu'il va aller défendre souvent les agriculteurs. Et il a attiré mon attention, puis je suis allée plus loin, j'en ai fait un dossier. Voici ce qu'il avait à dire. Il y a quelques jours.
Malheureusement, dans ma circonscription, j'ai vu des fermes familiales de 35, 40, 50 ans abdiquer. Les fermes maraîchères, là. Puis ça revenait tout le temps. On n'est plus capable de livrer rien. Il y a toujours quelque chose. Comme vous avez dit, un frais pour déchargement. Ça arrive du jour au lendemain, c'est 50 $ pour décharger. Il faut que tu arrives à telle heure. Si tu arrives 2 minutes trop tard, tu vas attendre 3-4 heures. Un moment donné, là, les producteurs, là, moi, je ne suis pas inquiète pour les producteurs parce que c'est des gens là, qui sont débrouillards. Ils vont faire d'autres choses. Mais qu'il n'y en ait plus de producteurs qui veulent en faire des fruits et des légumes, là. Il y a juste 1% de la population qui travaille dans le milieu agricole là, pour nourrir toute la population. Puis on les tient comme des esclaves de la terre. Livrez-nous votre marchandise. Vous aurez le prix qu'on voudra bien vous payer. Puis après ça, on leur met des normes sur le dos. Est-ce qu'on va atteindre un mur, tôt ou tard, sur le nombre de producteurs? Parce que moi, ça m'inquiète bien gros. Moi, je vois d'ici 15 ans, là, on va être obligé de mettre des programmes nationaux pour avoir des producteurs agricoles au Canada. Qu'est-ce que vous en pensez?
Et là,
le mur est vraiment très, très proche.
C'est parti en vrai, il veut pas, parce qu'on parle de 1% des gens au Canada qui œuvrent en agriculture, mais il y en a aussi beaucoup qui se demandent qu'est-ce qui va arriver pour la suite des choses. Ça va être les enfants qui vont prendre l'entreprise? Est-ce qu'on va devoir la vendre? Et ces terres-là où on défriche, on cultive depuis des années, elles sont riches. Ça fait partie de notre grande ressource dans le pays. Il représente Lévis-Lobinière à la Chambre des communes et Jacques Gourde a décidé de prendre cette parole-là. Moi, je me suis dit, ben parfait, on va aller parler à un agriculteur. Vous le connaissez très bien, c'est David Simard de la ferme Simard. Et je voulais voir avec lui, est-ce que c'est pertinent? Est-ce que c'est juste divertissant? Est-ce que c'est un réel enjeu, le fait qu'on vous dise, en fait, quel prix on va vous payer pour vos récoltes, ce qu'on va prendre, et surtout, on vous met des bâtons dans les rues. T'es-tu en accord, toi, avec comment ça se passe actuellement?
On parle des frais un petit peu de doc, là, qu'on appelle là, les gens qui se font charger un frais pour pouvoir décharger. Ils parlent aussi là, des grandes chaînes qui décident des prix, là, si on veut, pour les agriculteurs. Puis il y a une partie de ça qui découle d'un article de la Terre de chez nous qui est sorti récemment qui disait que Metro Super C avait importé là, des carottes de la Chine. Il y avait des promotions dans les circulaires avec des carottes de la Chine, alors qu'en ce moment, au Québec, on a un surplus de carottes. C'était une très belle saison dans cette production-là, puis les prix sont littéralement à terre. Donc, ça faisait la grogne un peu, ça fâchait un petit peu tout le monde.
Et avec raison, ça n'a pas de sens. Des alors, carottes de la Chine qu'on a trop ici en sol québécois.
On s'entend-tu qu'on est dans la période des récoltes?
Ben exactement.
On est vers la fin, mais on en a des légumes à pocheter.
Je serais plus compréhensif au mois de février, mais pas là.
Et encore, parce qu'on peut la produire à l'année.
En effet.
Pourquoi est-ce qu'on n'investit pas dans le fait qu'on puisse produire aussi à l'année pour avoir nos produits? Puis là, la façon facile de raisonner, puis je pense que tout le monde se pose la question, c'est oui, mais tu sais, à un moment donné, dans le contexte économique, là, ça se peut qu'on n'ait pas l'argent pour les carottes ici. Est-ce réel de penser que celles de la Chine sont moins chères? Si oui, pourquoi? Avec tout ce qui est frais de transport et tout ça, est-ce que c'est eux finalement qui perdent au compte? Est-ce qu'elles sont vraiment moins chères, ces carottes-là?
Juste pour ceux qui diraient, bon ben les chaînes importent des produits parce que c'est une question de prix, c'est normal, ils veulent avoir les prix les plus bas possibles sur les tablettes. Premièrement, les carottes de la Chine n'étaient pas nécessairement moins chères que celles du Québec. Puis la chaîne Métro, qui est la plus petite chaîne là, des cinq plus importantes au Canada, a engrangé en 2024 des profits de 460 millions de dollars. L'agriculture au grand complet, quand on parle les 27 000 entreprises agricoles en 2024 au Québec, la totalité ensemble, les profits, ça a été de 165 millions. On est 27 000 entreprises pour 165 millions quand une seule des cinq grandes chaînes fait 460. C'est un peu dérisoire de penser là, que c'est nous, les producteurs, là, qui font des produits trop chers. Souvent, ils vont importer des produits de la Chine seulement pour avoir des plus grosses marges. Puis le message officiel de la chaîne, là, dans les médias, c'était que cette variété de carottes-là était spéciale, puis qu'on n'était pas capable de la faire au Québec. Puis c'est pour ça qu'ils l'importaient, que c'était un produit un peu spécial, puis un peu de niche, si on veut. Ce qui n'est pas du tout vrai. Il y a des producteurs qui sont sortis, là, encore une fois, sous le couvert de l'anonymat pour être sûr de ne pas avoir de représailles, là, qui ont confirmé qu'on était tout à fait capable de produire ces variétés de carottes-là ici au Québec.
Il y a plein de choses là-dedans, Pascal. Mais, je veux pas avoir de représailles.
Donc, on est muselé de parler parce que, assurément, si on fait affaire avec une bannière, Jeff, c'est notre façon de faire
Ben
de l'argent
oui.
annuellement. On veut pas perdre, en fait, ce contrat-là.
Non.
Mais ça se peut que le contrat
Mais on
ne fasse
s'entend,
pas
c'est
notre
ma
affaire.
Façon de faire de l'argent. On s'entend que les agriculteurs font pas mal moins d'argent que les chaînes alimentaires.
Ça veut pas dire qu'il y a pas d'injustice là-dedans.
Mais c'est
ça. On comprend que les bannières sont en affaire au privé. Donc,
oui.
ils peuvent vraiment choisir avec qui ils font affaire. Puis, la marge qu'ils veulent avoir. Mais est-ce qu'on aurait une question de société à se poser là-dedans? Quand on apprend que 460 millions de dollars de profit, ça, c'est seulement pour une des grandes bannières,
ouais.
mais que pour les 27 000 agriculteurs au pays, tu as juste 165 millions de dollars qui sont partagés
ouais.
entre eux.
Alors que c'est
de
eux
profit.
Qui travaillent la terre, qui font la grosse job, qui en prennent soin, qui font la grosse job pour nous nourrir.
Exactement.
C'est ça qui ne fait pas de sens
Donc,
dans ce courant-là.
Oui, c'est un peu un secret gardé comment ça fonctionne.
C'est des pratiques déloyales, là, bien souvent. Puis les producteurs, on n'entend pas beaucoup parler. Puis même les associations de producteurs hésitent à sortir contre ça, là, par peur de représailles. Il y a plusieurs producteurs dont les chaînes sont les seuls clients. Donc, c'est sûr et certain qu'on ne verra jamais ces producteurs se plaindre dans les médias, du moins en affichant leur nom, là. Donc, c'est quelque chose qui est gardé un petit peu secret, si on veut. Puis, quand ça sort comme ça au grand jour, tout le monde est surpris, mais nous, on sait comment ça fonctionne. Il n'y a rien de surprenant là-dedans.
Je jasais avec David Simard de la ferme Simard ici sur la côte de Beaupré, puis tu sais, il disait c'est un peu difficile de se battre parce que justement, entreprise
Ah,
privée,
oui.
réglementation, etc. Tu sais, il dit est-ce que moi, en tant qu'agriculteur, en solo, en indépendant ou autre, je vais être capable? Même si on se met en gang, c'est pas toujours facile. Alors, tu sais, la solution première, c'est le choix de société. Le choix d'être vraiment lucide à dire est-ce que je peux acheter québécois? Puis si je peux pas acheter de carottes, par exemple, cette semaine, je vais me tourner vers autre chose. Mais il arrive quoi aux carottes? Parce que là, on est dans une saison. On a énormément produit de carottes.
Okay? Oui, là, bon. David nous disait tantôt, on a un surplus.
On a un surplus.
Mais on en vend de la Chine.
Mais on met des spéciaux, puis on prend majoritairement celles de la Chine sur nos étalages pour certaines bannières. Donc, il arrive quoi? Est-ce qu'on perd les récoltes?
Ouais.
Dans le cas précis de la carotte, ça se ramasse aux carottes à chevreuil, c'est sûr et certain, là. On a presque le même prix pour des carottes à chevreuil qu'on a pour des carottes fraîches lavées puis belles pour la consommation. Là, actuellement, le prix du marché pour la carotte à chevreuil, on parle de 8 à 12 $ là, au détail pour des poches de 50 livres. Puis en ce moment, là, dans le marché de gros, c'est à peu près 10 $ la poche de 50 livres qui est offerte aux producteurs. Là, donc, c'est sûr et certain qu'il y a un gros paquet de carottes en ce moment qui se ramasse directement pour le chevreuil parce que c'est plus facile puis c'est plus payant pour les producteurs de faire ça, ce qui est un non-sens. Puis dans les autres productions, ben c'est juste les prix qui s'écroulent, puis souvent ça va être d'essayer de vider les entrepôts le plus rapidement possible, puis de pas supporter d'inventaire, puis d'essayer de passer ça quand même. Les producteurs sont pris avec des menottes. Hein. C'est pas nous qui décidons du prix. Puis à un moment donné, il faut vendre. Quand tu as un entrepôt qui est plein, tu ne veux pas attendre que ça pourrisse. Fait que c'est le prix qui continue de descendre. Puis les gens ramassent le chèque qu'ils ont. Puis ils font avec.
Et pognés à gorge bien raide. Puis avec nos carottes qu'on produit chez nous, on nourrit les chevreuils. On nourrit pas les êtres humains.
C'est rien contre les chevreuils, là, pas du
non,
tout.
Non, non, moi non plus.
Qu'est-ce qui se passe, les carottes aux chevreuils? Bien, c'est des carottes qui, normalement, sont déclassées, donc des pourries, des cassées. Le taux de déclassement pour les carottes, c'est 30 %. Mais ça, c'est pas grave. Le chevreuil va la manger quand même.
Ouais.
Mais là, quand c'est des belles carottes qui ont été travaillées, qui sont pas déclassées, qui ont été lavées, qui ont été préparées, ça, c'est le coût de la main-d'œuvre. C'est du temps pour les agriculteurs.
Oui.
Puis là, tu vois, ça s'entasse dans un hangar, puis il se dit, bien, à un moment donné, il faut que j'y vende, mais ça se peut que ça m'ait coûté, je fais un exemple de chiffre, 10 $ les produire, mais que je les vends à 2 $. Fait que je suis vraiment perdant. Puis ça, c'est une question que j'ai posée. Est-ce que, dans le fond, tu payes toi-même pour nourrir les gens?
Souvent, 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 les producteurs sont à perte. Quand je te disais que le 165 millions, c'était le profit total divisé par 27 000 entreprises agricoles au Québec, ça fait à peu près 6 000 $ par entreprise. Donc ça inclut pas les assurances récoltes puis les subventions que certains peuvent obtenir. Donc, ce qu'on peut en déduire, c'est qu'il y a un paquet de producteurs qui produisent à perte, puis que le seul moyen d'arriver, Yvonne, ou peut-être générer un petit peu de profit, c'est d'avoir des assurances stabilisation là, dans certaines productions. Fait que c'est pour certains, c'est le seul moyen de pas être à perte, c'est l'assurance stabilisation là. On l'a vu dans le porc pendant plusieurs années. Actuellement, dans le porc, ça s'est replacé un petit peu plus. On l'a vu aussi dans le bœuf pendant énormément d'années. Le bœuf aussi, là, c'est replacé. Là, maintenant, c'est le maraîchage là, qui mange un coup cette année et dans les dernières années. Donc, c'est un peu ça. Là, on produit à perte.
Très, très, très questionnant, peu encourageant pour nos agriculteurs, nos maraîchers. Merci à David Simard d'avoir contribué. Franchement, Pascal, va falloir faire quelque chose pour nos agriculteurs. Sinon, on va arrêter d'être autonome au niveau de l'alimentation.
Puis bravo pour le courage aussi, mais tu vois, ça complexifie énormément le marché européen en ce moment. Donc, faut miser sur ce qu'on a ici. Puis je comprends pas que ce soit les enfants pauvres, si on veut, de la réglementation. Au Québec, du moins, pour 27 000 agriculteurs, c'est pas énorme, là.
Non,
on pourrait s'en occuper plus pour ce qu'ils font pour nous.
Vraiment, Nadine, qui écrit « Acheter local », c'est un très bon point. On a PO aussi qui nous parle là, d'essence, de machinerie à réparer, tout ça, qui explique aussi que les marges de profit diminuent, et avec raison. Pascal CV, ça fut un plaisir comme à chaque midi.
Oui, puis on se retrouve demain.
On se retrouve demain. Farnell Morisset va être avec nous. Imagine-toi donc que Farnell, c'est un ingénieur. Fait que là, il va nous expliquer toute la polémique autour des ingénieurs. Puis de sa mamade.
On fera un petit retour. Pourquoi tu as le droit de dire ou pas que tu es ingénieur?
J'ai ingénieur.
Tu l'es, tu. Ah, es-tu ingénieur, toi?
Farnell, il est tout. Par exemple, il est avocat, il est ingénieur. Non, moi, je suis pas assez intelligent pour être ingénieur.
Franchement, chacun a une intelligence, ça dépend dans quel domaine.
T'as raison. Hey, à demain, Pascal CV. C'est le retour de Gravel qui suit à l'instant même avec Denis Audrey et Véro.